franceinter.fr.
Le journal Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. Une cyberattaque internationale sans précédent. Pour Europol, il sera difficile d'identifier l'origine du piratage qui bloque depuis hier de nombreux systèmes informatiques dans les administrations et entreprises de tous les continents. En France, plusieurs usines Renault, notamment Sandouville, ont dû cesser leur activité. En Grande-Bretagne, ce sont les hôpitaux qui ont été désorganisés. Les choses sont apaisées. La République En Marche confirme qu'un accord a été trouvé avec le MoDem de François Bayrou sur les investitures législatives. Un accord qui reste à valider. Les candidats En Marche sont réunis ce samedi au musée du Quai Branly à Paris pour une journée de formation. Les bergers de Fatima, canonisés par le pape François, 400 000 fidèles ont assisté ce matin à la messe sur l'esplanade de la ville sanctuaire. Dans ce journal également, 4 ans après l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, plus d'un millier de morts parmi les salariés du textile, la loi Devoir et Vigilance a été votée au début de l'année en France. C'est le droit de suite de ce journal, avec aussi du rugby, la troisième finale européenne de Clermont face aux Saracens, sans oublier pour la prescription du week-end les bons plans ciné de Corinne Pélissier. Des sites de production de Renault ont donc été mis à l'arrêt dans la nuit à Sandouville, notamment suite aux cyberattaques de la soirée qui ont touché simultanément plusieurs dizaines de pays en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Russie. Des dysfonctionnements informatiques massifs qui ont infecté par exemple le géant de la livraison de colis FedEx ou les hôpitaux britanniques, on va y revenir. Les pirates auraient exploité une faille des systèmes Windows en introduisant un logiciel de rançon qui verrouille les fichiers contre Mathilde Dehimi.
Un écran parasite l'annonce que vos données seront effacées si vous ne payez pas une rançon. Rançon payable en bitcoin, bien sûr, monnaie électronique discrète sur Internet. Les petites et moyennes entreprises ont déjà l'habitude de ces braquages informatiques. Mais ce qui surprend dans cette attaque, c'est son ampleur et sa finalité, explique Nicolas Arpagian, auteur de nombreux ouvrages sur la sécurité.
On peut envisager qu'il s'agit, au-delà de l'activité crapuleuse, d'un test grandeur réelle de cyberattaque massive et de voir effectivement si les systèmes d'information des entreprises, des grandes entités et surtout si les instances étatiques sont à même d'apporter une réponse uniforme, constructive et consolidée à ce type d'attaque. On peut considérer que c'est un test justement par rapport à ces cyberattaques de grande ampleur que l'on redoutait.
Une première tentative donc avant une possible nouvelle attaque plus ciblée, explique Nicolas Arpagian, aux conséquences importantes pour les États visés. Reste donc à savoir qui se cache derrière ces attaques informatiques et à quelle vitesse les victimes vont pouvoir se remettre de cette attaque. Ce logiciel malveillant a pu se propager si l'ordinateur n'a pas été mis à jour via des mails et des pièces jointes au format très classique du type PDF ou .doc. Il est aussi possible qu'il passe d'ordinateur en ordinateur, en réseau et donc sans mail. La faille avait déjà été relevée il y a quelque temps par la NSA. Des documents l'évoquant auraient été piratés. Les autorités américaines notamment recommandent de ne pas payer ces rançons.
Alors en France, Renault a annoncé ce matin l'arrêt de certains sites. Qu'en est-il précisément ?
Seule cible française connue pour l'instant, Renault. La direction confirme avoir été touchée. Des chaînes de montage sur différents sites sont à l'arrêt depuis cette nuit pour éviter la propagation du logiciel à Sandouville notamment et en Slovénie. D'après un porte-parole, les services informatiques de Renault sont en train d'essayer de nettoyer et de protéger leur réseau. Europol parle d'attaques sans précédent, d'y travailler avec les différents services de chaque pays pour contenir le logiciel et assister les différentes entités ciblées.
Des enquêtes ont été ouvertes dans plusieurs pays, dont la France à l'instant, enquête ouverte par le parquet de Paris. Il semble que ce soit la Russie qui ait été particulièrement visée à travers son système bancaire et plusieurs ministères. En Allemagne, les panneaux d'affichage de la Deutsche Bahn ont été affectés, sans conséquence sur la circulation des trains. Et puis on l'a dit, en Grande-Bretagne, plusieurs hôpitaux ont été visés, entraînant un certain nombre d'annulations de rendez-vous, en tout cas une grande désorganisation, Marina Darras.
Des opérations chirurgicales annulées, des ambulances détournées et des services hospitaliers entiers forcés de fonctionner sans ordinateur. ordinateurs. Si le NHS, le service de santé britannique, affirme que les données des patients n'ont pas été endommagées ni consultées, c'est tout de même le chaos qui s'est installé depuis hier soir. Sans système informatique, les médecins et les infirmières de certains hôpitaux ont perdu l'accès aux appareils de radiologie, aux résultats de tests sanguins et même aux dossiers administratifs, les obligeant à utiliser très souvent une feuille et un stylo pour faire signer les actes médicaux par leurs patients. L'attaque ne visait pas particulièrement les hôpitaux britanniques, mais près de 40 d'entre eux ont malgré tout été touchés. Les hackers réclament une rançon pour débloquer les informations qu'ils détiennent et qu'ils menacent de supprimer si le paiement n'est pas effectué rapidement. Des experts du Centre national de cybersécurité du service de renseignement britannique ont été mobilisés pour aider les équipes du NHS à combattre cette attaque. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Une attaque dont l'origine, répétons-le, reste pour l'instant inconnue. Les ministres des Finances du G7 réunis en Italie se sont engagés ce matin à renforcer la lutte commune contre ces cyberincidents qui représentent une menace croissante pour les économies mondiales. En politique, ça va mieux dans le couple Modem En Marche. François Bayrou assure qu'un accord solide et équilibré a été trouvé avec les équipes d'Emmanuel Macron sur les investitures aux législatives. Un accord qui doit être encore validé. Mais les choses sont apaisées, confirme également le porte-parole d'En Marche, Benjamin Griveaux, qui parle de tempête dans un verre d'eau. En attendant, la plupart des candidats désignés par le mouvement sont réunis ce samedi au musée du Quai Branly à Paris pour la photo de famille et pour se former sur la manière de faire campagne. Julie-Marie Lecomte.
Et à l'entrée, c'est Jean-Paul Delevoye lui-même, le président de la commission d'investiture qui les a accueillis et salués un par un.
Bonjour, Catherine Kamowski, l'Isère, 5e circonscription.
Bienvenue, merci. Bonjour, Mathieu Perrault, la 3e circonscription de l'Ardèche.
Beau département avec plein de défis à relever.
Des défis, il y en a presque autant que de circonscriptions, mais pas question de se laisser impressionner. Disent encore Annie Chapelier, candidate dans le Gard, Pascal Fontenelle-Personne, candidate dans la Sarthe, et Annie Estil, candidate dans l'Oise. La première est infirmière anesthésiste, la seconde chef d'entreprise et la troisième directrice d'école.
Nous sommes tous des hommes et des femmes politiques dès lors que nous vivons dans une communauté. L'optimisme doit être de rigueur. On peut faire changer les choses, on peut les faire avancer.
Je pense que déjà à la base, je suis militante. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes forcément une militante. Vous militez pour l'économie et la création des emplois.
On doit pouvoir y arriver. Moi, je suis une joueuse d'échecs. Alors, tant qu'on n'a pas couché mon roi, la partie est gagnable.
Répondre aux interrogations, aux doutes, c'est pourtant aussi l'objectif de la journée. Alexandra Hardisson espère que Paris ne la laissera pas trop seule dans sa 4e circonscription des Alpes-Maritimes.
C'est une circonscription très compliquée. 4 semaines, c'est court. C'est court, surtout dans des territoires comme les nôtres, où c'est le Front, où le Front National est très fort. Donc chez nous, c'est très dur. Je pense qu'il y aura besoin d'avoir à un moment donné l'appui du gouvernement.
Depuis jeudi, beaucoup ont déjà lancé leur campagne, répondu à leurs premières interviews, sans se laisser désarçonner par les tensions avec François Bayrou. Quai Branly, Éric Audra, Julie-Marie Lecomte, France Inter.
Voilà, les candidats qu'Emmanuel Macron est venu saluer lui-même en fin de matinée. Vous représentez la vitalité démocratique française, leur a lancé celui qui prendra officiellement ses fonctions demain, après la passation de pouvoir à l'Élysée. Et à propos de vitalité démocratique, elle est aussi à l'œuvre du côté de la France insoumise. C'est Éric Coquerel, coordinateur du parti de gauche, qui le dit. En Marche propose une recomposition de son camp, une espèce de parti démocrate. Eh bien, nous, de la même manière, dit-il, nous proposons une recomposition de notre espace politique. 550 investitures de la France insoumise seront annoncées cet après-midi, dont 66% de candidats qui ne sont pas encartés et 94% qui n'ont jamais été élus. C'était il y a 4 ans, au Bangladesh, l'effondrement du Rana Plaza, un immeuble de Dhaka, la capitale, faisait plus de 1135 morts. Pour la plupart des salariés de plusieurs ateliers de confection travaillant pour de grandes marques internationales de vêtements, dans l'immeuble dont les étages supérieurs avaient été construits sans permis, des signes de fissures avaient pourtant été repérés, des consignes d'évacuation avaient été données, mais elles n'ont pas été respectées. La catastrophe avait suscité une grande émotion au Bangladesh et dans le monde, entraînant de nouvelles lois plus protectrices pour les salariés du textile, jusqu'en France, où au début de cette année, la loi Devoir et Vigilance, l'une des dernières du quinquennat, a été définitivement adoptée après 4 ans de mobilisation. Elle oblige les sociétés mères et donneuses d'ordre à vérifier que leurs filiales et sous-traitants respectent bien les droits humains. C'est le droit de suite de ce journal signé Maxime Deps.
Elle oblige cette loi les plus grandes entreprises françaises, celles de plus de 5000 salariés, à surveiller de près les conditions de travail, de sécurité de leurs sous-traitants à l'étranger sous peine d'être attaqués en justice. On appelle ça le devoir de vigilance. Dominique Potier est le député qui a porté cette loi à l'Assemblée.
On pourrait parler, si vous voulez, d'un permis de conduire dans la mondialisation. On ne peut pas produire au bout du monde sans avoir un permis de conduire. Le permis de conduire, c'est l'apprentissage des risques et la manière de les prévenir. C'est ce qu'on va demander désormais aux grandes entreprises. Ce n'est pas une loi contre la mondialisation, c'est une loi pour humaniser la mondialisation.
Plus humaine, vraiment, certaines ONG déplorent que cette loi n'aille pas assez loin. Dans son parcours parlementaire, le texte a été amputé de plusieurs paragraphes. Si un défaut de vigilance est constaté, un juge pourra être saisi, mais le passage relatif aux sanctions financières, aux amendes, a notamment disparu, ce que déplore à moitié Carole Péchaud de CCFD Terre Solidaire.
On n'est pas satisfait entre guillemets du contenu, mais on est extrêmement satisfait d'avoir abouti à une loi qui n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel et qui reste une avancée historique puisque c'est la première loi au monde qui va aussi loin.
Il faut que cette loi maintenant fasse des petits ailleurs en Europe, mais surtout que le législateur ne revienne jamais en arrière, prévienne autant la responsable de cette ONG que l'homme à l'origine du texte.
D'autres après nous et dans le mandat qui vient, je l'espère, approfondiront ce sujet. Le lobbying en la matière a été surpuissant. Nous devrons leur dire majoritairement dans la prochaine législature que nous ne souhaitons pas revenir sur cette loi et qu'au contraire, nous voulons la porter à l'échelle de l'Europe et la promouvoir au bout du monde.
En ligne pour ce droit de suite, Nella Ajaltouni, coordinatrice du collectif éthique sur l'étiquette, qui était en pointe sur ce combat des droits humains. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, j'imagine qu'il faut maintenant exporter ce devoir de vigilance au niveau européen pour commencer.
Oui, absolument. Je pense que c'est extrêmement important de dire que cette loi, effectivement, on aurait souhaité qu'elle soit plus ambitieuse dans son contenu et notamment qu'elle permette réellement aux victimes de ces drames sociaux environnementaux d'obtenir justice. Mais c'est aussi la première fois que l'on considère que dans la mondialisation, les acteurs les plus puissants que sont les multinationales doivent être responsables des impacts qu'elles causent à l'étranger. Et d'ores et déjà, nous étions déjà regardés par les pays européens qui attendaient le courage politique aussi de certains États et la France en ce sens-là est déjà suivie et plusieurs législations similaires sont en train d'être construites en Europe.
Alors ça ne va pas aussi loin que vous l'auriez souhaité. Par exemple, dans cette loi, c'est aux victimes de prouver ce qu'ils avancent, ce qui est plutôt difficile à faire.
Oui, vous imaginez que c'est déjà très difficile pour des populations qui subissent ces dommages à l'autre bout du monde d'obtenir justice auprès d'une entreprise locale lorsqu'il s'agit de s'attaquer à des entreprises multinationales extrêmement puissantes occidentales. Elles ont besoin en effet d'être accompagnées. Or, c'est encore à elles de prouver d'une part la faute de l'entreprise et puis le lien de causalité entre la faute et le dommage. Mais cette loi permettra que nous puissions les accompagner et s'exerce une solidarité internationale. Et puis par ailleurs, on aurait souhaité que le seuil des entreprises concernées soit beaucoup plus bas pour permettre d'inclure d'autres secteurs, notamment le secteur extractif qui cause la majorité des violations des droits humains dans le monde.
Oui, c'est-à-dire les minerais, le pétrole, le gaz, etc.
Absolument, tout à fait, l'extraction, les minerais, les fameuses mines à coltan qui sont utilisées pour nos téléphones portables. Donc, les entreprises qui emploient moins de 5000 salariés ne sont pas concernées. Or, de nombreuses entreprises qui interviennent dans ces secteurs n'emploient pas autant de salariés. Donc, il faudra faire évoluer cette loi pour qu'elle soit plus élargie.
Alors, avec un problème aussi, un manque, disons, dans la loi, c'est s'agissant des sanctions, par exemple, qui ne sont pas très sévères et très précisées d'ailleurs.
Alors il est vrai qu'il y avait également un niveau de sanction qui avait été introduit, c'est-à-dire qu'une entreprise qui manquait à son obligation contenue dans la loi de prévenir et d'identifier les risques sociaux environnementaux pouvait encourir jusqu'à 10 millions d'amendes. Mais pour nous, ce montant n'était pas vraiment dissuasif et surtout il ne constituait pas des dommages et intérêts. Ce qu'a toutefois confirmé le Conseil constitutionnel, on en est extrêmement content, c'est qu'un juge peut être saisi et enjoindre l'entreprise sous astreinte, c'est-à-dire aussi avec une compensation financière, de se conformer à son obligation. Et ça veut dire aussi que le juge pourra décider finalement, plutôt que l'entreprise paye une amende civile, qu'elle paye des dommages et intérêts aux victimes. Ça, c'est la partie parcours du combattant, mais cette loi rend possible cette opportunité.
Alors à quand une étiquette, puisque vous faites partie du collectif éthique sur l'étiquette, un label pour les produits fabriqués dans le respect des droits humains? Pour le consommateur, ce serait utile.
Ce serait très utile. C'est vrai que la grande difficulté pour les consommateurs, c'est de s'y retrouver parce qu'il y a une grande opacité sur les conditions de production des produits que l'on achète ici et que le pays d'origine ne dit rien finalement sur les conditions sociales de production. Dans des secteurs extrêmement ramifiés et complexes comme le textile, ça n'a pas été possible aujourd'hui. Donc là, à nouveau, je pense qu'il faudra en passer par la législation pour contraindre à une transparence, notamment au niveau européen, les multinationales sur l'origine et les conditions sociales de production des biens. Ça a été rendu possible dans l'alimentaire aussi parce qu'il y a une grande mobilisation des consommateurs, des organisations de la société civile. Donc on souhaite que cela puisse se traduire aussi pour le secteur textile. On y travaille au niveau français comme européen.
Neila Ajaltouni, collègue du collectif éthique sur l'étiquette. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Des centaines de milliers de pèlerins à Fatima ce matin pour la canonisation de Francisco Marteau et de sa sœur Jacinta. C'est à eux, petits bergers portugais, que la Vierge Marie serait apparue il y a tout juste 100 ans. Apparition suivie quelques mois plus tard de phénomènes jugés insolites. Et c'est donc le pape François qui a ce matin célébré la messe, Mathilde Imberti.
Les portraits de Jacinta et Francisco s'affichent sur la basilique de Fatima. Les deux enfants de 7 et 9 ans, à qui la Vierge serait apparue ici il y a 100 ans. Leur canonisation est la consécration suprême pour Pedro, père de famille portugais.
C'est la confirmation de ce que l'on sait, nous, au Portugal, depuis 1917, de ce que l'Église a reconnu en 1930. Tout est vrai, et maintenant le monde entier le sait. Et quand on pense que la Vierge est apparue à des enfants, ça veut dire que la foi est quelque chose de très simple.
Pour ne pas perdre une miette de la messe de canonisation, les fidèles ont dormi sur place. C'est le cas de Lydia, qui a parcouru 20 km à pied avec ses fils. Ils ont l'âge des deux petits bergers canonisés.
Oui, nous avons dormi à même le sol, dehors. C'est un sacrifice, mais nous sommes tellement heureux. Ces deux enfants étaient jusqu'ici des anges, désormais ce sont des saints.
La statue de Notre-Dame de Fatima fend la foule, des pèlerins pleurent, le petit Lucas est présent, l'enfant brésilien miraculé qui a déclenché cette double canonisation. Le pape François, dans son homélie, insiste sur ces visages modestes de l'Église. L'Église resplendit, déclare-t-il, quand elle est pauvre en moyens, mais riche en amour. Fatima, Mathilde Imberti, France Inter.
Voilà, une petite cousine accompagnait les deux bergers ce jour de mai 1917, mais elle n'a pas accompli les deux miracles nécessaires à sa canonisation. En Côte d'Ivoire, des soldats mutins à Boaké, la deuxième ville du pays, après avoir tiré en l'air toute la nuit, ils bloquent les entrées de la ville pour réclamer le versement de primes. Le chef d'état-major des armées les menace de sanctions disciplinaires sévères.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
En rugby, ça va cruncher, comme dit l'équipe ce matin. Allusion aux rencontres entre la France et l'Angleterre dans le tournoi. Mais là, en fin d'après-midi, à Édimbourg, ce sera presque ça, puisqu'en finale de la Coupe d'Europe, Clermont sera opposé aux Saracens, tenant du titre. Les Auvergnats qui joueront leur troisième finale et seront plus motivés que jamais, Jérôme Val.
L'étiquette lui colle à la peau. Clermont, le perdant, magnifique. Le club aux 17 finales disputées en championnat et en Coupe d'Europe pour 3 seulement remportées. Les Auvergnats veulent à tout prix éviter le titre peu enviable de la première équipe dans l'histoire à perdre 3 finales de Coupe d'Europe. L'ouvreur Camille Lopez veut croire au changement de destin.
Malgré que ça soit un échec, t'apprends toujours. C'est pas gage de réussite non plus. C'est pas parce que t'as joué 48 que la 49e tu vas la gagner. Maintenant, il faut qu'on ait confiance en nous et qu'on garde ce plaisir et cette liberté qu'on a sur le terrain depuis le début de la saison.
Et pour éviter de ressasser les mauvais souvenirs, le club a fait appel à un coach mental, l'ancien entraîneur de foot Denis Troche. Aspect psychologique donc, mais aussi physique et technique. Cette année, Clermont semble mieux armé pour aborder cette nouvelle finale. Un groupe plus homogène, explique le demi de mêlée Morgan Parra.
On a des joueurs frais qui ont rien vécu, donc qui apportent cette fraîcheur et cet enthousiasme. Et on a d'autres joueurs qui ont vécu des finales, qui apportent un peu cette sagesse. D'autres joueurs qui ont joué qu'une finale ou deux, donc qui apportent un peu d'expérience aussi. Donc c'est un mix qui peut faire que tu peux être champion. Oui.
N'empêche, les Saracens ont fait très forte impression sur ces phases finales. Ils restent sur 17 matchs sans défaite dans cette Coupe d'Europe. Un record. Édimbourg, Jérôme Val, France Inter.
À 18h, donc à Murrayfield en Écosse. Hier soir, le stade français a donné l'exemple en remportant le challenge européen, la petite Coupe d'Europe, 25-17 face à Gloucester. Allez, un week-end au cinéma. Et pourquoi pas, un nouveau film, un autre à rattraper et quelques bons plans pour voir les films de Cannes loin de la croisette. Voici les bons conseils de Corinne Pellissier. Bonjour Corinne.
Bonjour.
On démarre avec ce succès inattendu au box-office. Démarrage en trombe la semaine dernière pour le film Get Out. C'est un film d'horreur d'horreur sur l'Amérique de Donald Trump, une semaine d'exploitation est déjà un phénomène.
Avant même sa sortie, le film avait clairement bénéficié d'un excellent bouche à oreille à cause bien sûr du thème abordé, celui de l'Amérique raciste, et surtout à cause de la notoriété de son réalisateur Jordan Peele, qui est un humoriste bien connu aux États-Unis pour sa série à sketch Key & Peele. Get Out est son tout premier long métrage qu'il a tourné avec le budget d'une série B. C'est un drame familial abordé comme un thriller, très drôle, qui raconte en même temps des choses affreuses sur l'Amérique d'aujourd'hui. L'histoire d'un jeune homme noir qui s'apprête à rencontrer pour la première fois les parents de sa petite amie et qui s'inquiète de la manière dont sera perçue la couleur de sa peau. Il a bien raison, car derrière les sourires accueillants se cache un terrible secret.
Est-ce que tu fumes devant ma fille ?
Je vais arrêter de fumer. Elle va t'en débarrasser. Par hypnose.
Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin.
Attends, ça te fait pas flipper ? Tire-toi.
Pardon ?
Tire-toi ! Rose, faut qu'on se tire.
Qu'est-ce que t'as ?
Ne gâchons pas la matière grise.
Le film aborde avec beaucoup de finesse la question des relations interraciales. Il est bien réalisé et l'équilibre entre l'horreur et la tension est parfait.
Autre salle, autre ambiance, les bas-fonds de Los Angeles avec cette fois-ci un film de vengeance, Message from the King. C'est l'une des sorties de la semaine.
Avec Chadwick Boseman qui avait incarné James Brown dans le rôle titre. On le retrouve cette fois-ci dans la peau d'un Sud-Africain débarqué à LA pour retrouver sa sœur disparue. Il va découvrir qu'elle est morte et qu'elle a été torturée. C'est sombre, c'est violent, le genre d'histoire qu'on a l'impression d'avoir déjà beaucoup vu au cinéma. Mais il faut le voir pour l'atmosphère. On se croirait vraiment dans un roman de James Ellroy.
Et puis dans quelques jours, le coup d'envoi du Festival de Cannes. Corinne, vous avez des bons plans pour voir les films de la sélection à Paris.
C'est le moment de noter dans votre agenda du 26 au 28 mai l'opération Cannes à Paris avec les cinémas Gaumont-Pathé, la quasi-totalité de la sélection officielle. Il faut s'inscrire, hein, c'est toujours pris d'assaut. À partir du 31 mai au Reflet Médicis, les films en compétition dont la catégorie Un certain regard, les sélections parallèles, la quinzaine des réalisateurs au Forum des images du 1er au 11 juin et puis les films de la semaine de la critique à la Cinémathèque de Paris du 7 juin au 14.
J'ajoute pour tout le monde un livre intitulé « Ces années-là » paru chez Stock, 70 ans de festival raconté par les critiques de cinéma, préfacé par Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Merci Corinne Pellissier. Pour terminer, encore et toujours des momies en Égypte. Et oui, ça fait toujours rêver. 17 momies qui viennent d'être retrouvées dans des catacombes au centre du pays, la région de Minya, trouvées par des archéologues égyptiens qui l'ont eux-mêmes annoncé ce matin, à croire que ça n'arrêtera jamais.